Question d'islam par Ghalib Benchir. Aujourd'hui, nous parlerons à la fois de fondamentalisme, d'islamisme politique, d'islamisme radical, en lien, une fois n'est pas coutume, avec les affaires, avec le capitalisme, avec le libéralisme, avec cette idée qu'on peut être conservateur au niveau des mœurs, dans une certaine approche de la société, mais plutôt libéral quand il s'agit du capital et quand il s'agit de faire des affaires. Et nous n'avons pas trouvé meilleur que le politiste Hawass Seniger pour aborder ce sujet, d'autant plus qu'il a écrit un ouvrage intitulé « Les néo-frères musulmans et le nouvel esprit capitaliste ». Hawass Seniger, bonjour.
Bonjour.
Merci de nous faire l'amitié de venir nous parler à la fois de votre ouvrage et de cette idée, de ce lien entre tout particulièrement les frères musulmans, mais d'une manière générale les fondamentalistes musulmans, et l'esprit capitaliste. D'abord, comment êtes-vous amené à choisir ce sujet, à opter pour ce sujet, vous qui êtes politiste, maître de conférence à Sciences Po Lyon? Vous êtes chercheur au laboratoire Triangle et directeur adjoint de l'Institut d'études de l'islam et des sociétés du monde musulman, l'ISM, qui est rattaché au CNRS et à l'École pratique des hautes études.
Merci infiniment à Ghalib Benchir de nous donner une fois de plus une inestimable occasion de revenir sur des thèses qu'on a pu écrire et diffuser. Et il y a un sous-titre que je me permets de rappeler, qui est important, qui vient en appui au titre principal que vous avez eu la gentillesse de rappeler, entre rigorisme moral, crypto-capitalisme et anticapitalisme. D'abord, si on n'avait que 5 minutes, je dirais que la plupart du temps...
Nous en avons davantage, heureusement, mais je vous écoute.
C'est pourquoi je me permets cette petite note d'humour, c'est que les islamistes, on va revenir sur les définitions, une fois de plus on en parle beaucoup parce que ce sont des acteurs importants, ce sont essentiellement des crypto-capitalistes. Ce sont des personnes qui sont à la fois attachées à un certain rigorisme moral, à une surenchère normative religieuse, et à l'argent, mais qui n'osent paraître telles. Il y a une gêne à assumer chez les islamistes, contrairement à certaines formes de protestantisme, à assumer, je dirais, le capitalisme way of life, assumer sans entrave la nécessité et l'envie de s'enrichir. Ce thème, j'ai commencé à y travailler il y a à peu près 2-3 ans à l'occasion de discussions avec certains collègues, et on s'est rendu compte, au moment de la confection d'un numéro spécial d'une revue anglaise, que le rapport entre islamisme et économie était sous-traité. Ça ne veut pas dire qu'il n'existe pas de travaux de ce type dans l'Hexagone, mais en langue française, rares sont les chercheurs qui s'intéressent à l'articulation entre néo-frères musulmans et nouvel esprit capitaliste. J'ai choisi le titre néo-frères musulmans parce que je ne veux pas qu'on tombe dans l'illusion selon laquelle les acteurs auxquels on a affaire, puisque j'ai travaillé essentiellement sur la France, sont les héritiers directs, sans nuance, des premiers frères musulmans.
Et vous-même dites que la définition de l'islamisme, l'islamisme politique, l'islamisme radical, frères musulmans, néo-frères musulmans, est encore une définition floue qu'il faut savoir fixer et stabiliser.
Oui, tout à fait. Ça me permet de faire comme j'aime le faire quand je le peux, parce que c'est essentiel. Il faut presque une métaphysique philosophique pour comprendre l'islamisme. Qu'est-ce que j'entends par métaphysique ? En fait, je serais nominaliste, un peu à la John Locke, un nominaliste anti-réaliste. C'est-à-dire que je considère qu'il y a des particuliers, il y a bien sûr il y a des airs de famille, comme dirait Wittgenstein, entre des formes d'islamisme. Mais il faut pouvoir être capable d'analyser in situ certaines formes d'islamisme. Je dis néo-frères musulmans parce que les néo-frères musulmans sont ceux qui héritent de l'idéologie de Hassan al-Banna, fondateur des frères musulmans en Égypte en 1928, mais qui ne s'inscrivent pas trait pour trait dans l'ensemble de son idéologie. Je vais donner deux exemples. Hassan al-Banna souhaitait, trois exemples même, souhaitait l'avènement de l'État islamique. c'est pas le cas de la plupart des islamistes français ou néo-frères musulmans français qui peuvent souhaiter peut-être cela pour les contextes majoritairement musulmans, mais qui ne sont pas pour une république islamique française. Premier élément. Deuxième élément, Hassan al-Banna était pour l'application stricte, hic et nunc, de la charia comme loi prescriptive, punitive. C'est pas le cas de la plupart des néo-frères musulmans qui, eux, ne demandent pas cela dans le contexte français. Troisième élément, Hassan al-Banna appelait au califat. C'est le cas de certains néo-frères musulmans français, mais qui ne le décrètent pas, surtout pas après ce qu'a fait Daesh en 2014, au moment de la proclamation du califat. La définition est importante parce qu'on saura...
Pardon, oui, je vous en prie. Hawass Seniger, c'est pas pour aller dans ce que d'aucuns appellent la dissimulation, la taqiyya, etc. S'ils ne l'appellent pas urbi et torbi, est-ce aussi leur dessein, leur volonté, ou est-ce qu'ils sont dépositaires ou légataires de l'idéologie de Hassan al-Banna ou pas?
Alors, il y a un air de famille avec Hassan al-Banna, c'est cette idée que la norme religieuse doit être élevée au premier rang des normes, notamment à titre privé, et à titre collectif éventuellement au sein de la famille, etc. Mais ses frères, néo-frères, j'entends par néo-frères ceux qui, par exemple, adhèrent à Musulmans de France, hein, qui est devenu Musulmans de France en 2017, hein, l'Union des organisations islamiques de France. Ils sont rigoristes au plan religieux, ils adhèrent à une certaine forme de normativité religieuse, mais ils n'appellent pas au califat. Est-ce qu'ils sont dans la dissimulation? On ne peut pas sonder les reins et les cœurs. Et puis, ces acteurs font bien la distinction entre le souhaitable et le réalisable. Ils souhaiteraient peut-être, dans une cité idéale, que s'appliquât la norme religieuse. Mais ce n'est pas le cas, parce que ce n'est pas possible. Il y a des normes institutionnelles, culturelles, ils ne peuvent pas l'imposer dans le contexte français. Mais pour moi, c'est important de dire néo, parce que néo, c'est quelqu'un, ou néo-islamiste, c'est quelqu'un qui a en partage un certain nombre d'idéaux de Hassan al-Banna, mais qui n'est pas forcément l'allié de Daesh. Ça, c'est...
Vous qui avez évoqué Wittgenstein, je ne résiste pas à l'idée de parler des néo-positivistes de l'entre-deux-guerres au cercle de Vienne, où on revient au positivisme de Kant, mais on l'allège un peu, ou on l'édulcore, on lui donne en tout cas un nouveau souffle. Les néo-frères musulmans sont héritiers de la doctrine des frères musulmans, mais ils l'adaptent.
Oui, c'est ça, absolument. Je suis victime de mon désir de complexité. Je me définirais comme cela. Et toujours fidèle à Wittgenstein qui parle de jeu de langage. Un mot n'a de sens que dans les contextes où on l'utilise. On peut utiliser des mots différemment dans des contextes précis. Et c'est pourquoi j'ai eu le souci de parler de néo-frères musulmans. Parce que quand on parle d'islamisme en France, il y a trois amalgames qu'on fait. D'abord, on confond le rigorisme avec l'islamisme. Un rigorisme religieux qui peut être discuté philosophiquement. Et on confond islamisme avec radicalisme ou Daesh. Il y a des islamistes en France, il n'y a aucun problème à le reconnaître, mais ces islamistes sont légalistes, en ce sens qu'ils respectent la loi et ils se distinguent des radicaux qui, eux, perpètrent des actes de grande violence. Ainsi, pour répondre complètement à la question que vous posez, le souci d'aborder l'articulation entre néo-frères musulmans et économie ou capitalisme, c'était une manière de banaliser, je mets beaucoup de guillemets, le rapport qu'on peut avoir à l'islamisme en ne s'intéressant qu'au seul rigorisme moral qui existe, mais il y a un autre aspect qui finalement les rapproche d'autres acteurs. Cet aspect-là, c'est le désir narcissique d'être visible, etc., et le désir aussi de s'enrichir.
Oui. C'est-à-dire que pour vous, je suis à peine provocateur en disant cela, à côté de la croyance en un Dieu inclément et miséricordieux, avec des actes d'adoration, il n'y aurait pas beaucoup de scrupules à adorer Mammon.
Oui, c'est... Alors, c'est pour ça que je dis que les islamistes ont du mal à assumer cette position publiquement, parce qu'elle est difficilement assumable, pour parler un mauvais français. Sur les deux hadiths ou traditions attribuées au prophète de l'islam, Mohammed, je mets en exergue le fait que la richesse est valorisée. Ainsi, et c'est la raison pour laquelle il est important d'insister là-dessus, vous pouvez trouver à peu près tout et son contraire dans les traditions musulmanes. Vous pouvez très bien justifier le communisme et le socialisme comme justifier le capitalisme le plus débridé. La seule variable distinctive, et vous l'avez dit dans la question que vous avez posée, avec un brin de malice, mais c'était justifié, c'est que dès lors que vous avez bonne conscience et que vous êtes quelque peu charitable avec celui qui le mériterait, vous pouvez continuer à vous enrichir sans frein. Et c'est l'une des définitions, justement, du capitalisme.
Et en se référant ou en se fondant sur un hadith, donc un aphorisme attribué au prophète, que la main supérieure est meilleure auprès de Dieu que la main inférieure. C'est-à-dire celle qui donne est meilleure que celle qui reçoit. Ça va à l'encontre d'autres hadiths qui enjoignent à l'aumône, d'une manière discrète, que donne la main droite ce qu'ignore la main gauche, etc. Donc, oui. Ça sous-entend aussi, ce qui pose un autre problème, c'est qu'il y a beaucoup d'ordre à mettre dans l'inflation de ces aphorismes qui, pour certains, ont été fabriqués sur ordre.
Oui, alors je vais répondre de deux manières. D'abord, sur le fait que c'est une charge lourde, la tradition, c'est vrai. Ça ne veut pas dire qu'il faille l'abandonner. Les musulmans décideront leur âme et conscience. Mais Gamal Benna, le dernier des Al-Banna, avait, je pense qu'il...
Le frère de Hassan Al-Banna,
tout à fait, qui nous a quittés, je crois, en 2013, si je ne m'abuse, 2013-2014, était conscient de la difficulté des traditions religieuses. Il y avait une surenchère normative du côté de la tradition religieuse, et lui prenait le fait qu'on s'en tienne essentiellement à la tradition coranique, au Coran, plutôt que d'abonder systématiquement dans cette surenchère traditionnaliste ou la surenchère des hadiths. Et en cela, je suis d'accord avec vous, il y a un aspect qui mériterait d'être bien pensé et réfléchi. Sur la question, disons, de la richesse, de l'enrichissement, etc., il y a deux aspects, me semble-t-il, importants chez ces néo-frères musulmans. Il y a un aspect, je l'ai dit, crypto-capitaliste, parce qu'il y a, il y a une difficulté à assumer l'enrichissement du fait de la composition socio-économique ou de l'appartenance socio-économique des musulmans de France. Beaucoup, c'est de moins en moins le cas, parce qu'il y a une mobilité sociale, accèdent à des fonctions qui rémunèrent bien, etc. Malgré tout, il y a la conscience qu'on ne peut pas se satisfaire d'une promotion ouverte, explicite de la richesse, puisque cela heurterait la plupart des musulmans. Néanmoins, quand ils le peuvent, ces acteurs, ces prêcheurs, ces prédicateurs, ces doctrinaires, n'hésitent pas, quand ils vont dans certaines conférences, à promouvoir l'esprit d'entreprise, dès lors que cet esprit d'entreprise est rattaché au souci de charité ou au respect de la norme religieuse. Dès lors que vous faites vos 5 prières quotidiennement, que vous allez à la mosquée, que vous versez la zakat, qui est cette aumône purificatrice considérée comme l'un des 5 piliers de l'islam.
Enfin, c'est le troisième, a priori.
Troisième dans l'ordre chronologique. Oui. Vous êtes quitte vis-à-vis de Dieu. Et vous vous enrichissez parce que, en vous enrichissant, vous rendez grâce à Dieu. Donc votre place auprès du Seigneur est encore plus importante, du moins dans cette interprétation. Oui.
Et avec l'autre hadith qui valorise le travail comme étant un acte d'adoration. Oui. Et le meilleur acte dévotionnel et le meilleur acte d'adoration étant le travail lui-même.
Oui.
Qui entre en résonance avec le Beruf allemand.
De Max Weber, oui.
De Max Weber. Hawa Senninger, là, vos travaux et votre terrain d'étude, c'est la France. Mais quel est aussi le lien des frères musulmans ou leurs héritiers ou les néo-frères musulmans en dehors du cas français, même si ce n'était pas votre champ d'étude, et l'esprit capitaliste d'une manière générale? Ailleurs, est-il assumé ou pas? Ou est-ce que la spécificité de la France s'explique par l'émergence ou, disons, la prise des idées des frères musulmans en France dans des milieux qui, dans un premier temps, étaient plutôt précarisés ou fragilisés?
Oui. C'est une question centrale. Je vais tenter d'y répondre en partant de certaines situations dans le monde majoritairement musulman. Je commence d'ailleurs l'ouvrage de cette façon. J'invite les auditeurs qui ne l'auraient pas fait à se procurer cet ouvrage, non pas pour m'apporter quelconque bénéfice, mais en tout cas pour pouvoir discuter davantage les thèses qui sont mises en exergue. C'est de commencer par des cas concrets. L'Égypte, la Tunisie, le Maroc. J'ai pris ces exemples parce que on sait qu'après le processus révolutionnaire de 2011, un certain nombre d'acteurs dits islamistes sont arrivés au pouvoir, au gouvernement ou à la présidence de la République. Qu'est-ce qu'on observe à ce moment-là? On observe des acteurs qui autrefois voulaient une institutionnalisation de l'aumône, de la zakat, et qui, une fois en charge gouvernementale n'ont pu faire autrement que d'adopter la doxa capitalistique. Pas parce qu'ils le souhaitent, pas parce qu'ils le veulent, mais par défaut. Il y a un déficit, et ça c'est remarquable, il y a un déficit de théorisation économique chez les islamistes. En dehors du fait qu'ils sont pour une économie sociale solidaire, on n'a pas beaucoup de solutions. Au Maroc, le premier ministre d'autrefois, de l'époque, Abdelilah Benkirane, membre du Parti de la Justice et du Développement, a même invoqué Dieu, en tout cas appelé les chômeurs à invoquer Dieu pour trouver du travail. En Tunisie, Ennahda, le mouvement islamiste tunisien, n'a fait que reprendre à l'identique le programme néolibéral du président déchu Zine Abidine Ben Ali. Les frères musulmans en Égypte ont donné, pour reprendre les termes du politiste Gilbert Achkar, dans un capitalisme extrême.
Et durant leur bref passage, ils ont sévi en quelque sorte.
Absolument, absolument. Et cela, il y a des origines historiques à cela. C'est la raison pour laquelle, au début de l'opuscule, je suis revenu sur l'héritage de Hassan al-Banna et de Sayyid Qutb, deux principaux doctrines. J'aurais pu parler de Abul A'la al-Maududi, l'indo-pakistanais, je ne l'ai pas fait. Mais quand vous prenez les écrits de Sayyid Qutb et de Hassan al-Banna, très clairement, ils se disent contre le socialisme, le communisme et le capitalisme, parce qu'on est à une époque coloniale, donc il ne s'agit pas, l'époque même de guerre froide, pour être plus exact, il ne fallait pas donner quitus à l'Est ou à l'Ouest, mais dans les faits, Hassan al-Banna, vous trouverez sous sa plume, ou sous la plume de Sayyid Qutb, une valorisation à peine déguisée de l'enrichissement, si et seulement si cet enrichissement n'oublie pas les droits de Dieu.
Oui. Parce que, encore une fois, vos travaux portent sur le néo-fondamentalisme, ou en tout cas les héritiers des frères musulmans, et cette manière, c'est moi qui comprends les choses ainsi, honteuse de verser dans le capitalisme, mais d'une manière générale et à travers l'histoire, il y avait quelques doctrines, quelques visions du monde, de l'économie dans la tradition religieuse islamique, dans la civilisation islamique. Mais là, particulièrement, parce que vous mettez en exergue un peu un conservatisme au niveau du rigorisme, au niveau des mœurs, mais plutôt une volonté de s'enrichir.
Oui, c'est ça. C'est-à-dire que dans la vision du monde des frères musulmans, leur leitmotiv au départ, c'est l'islam ou al-hal. L'islam est la solution, ou l'islam c'est la solution.
Donc le slogan creux.
C'est le slogan creux, qui est une tautologie d'ailleurs. Mais quand vous dites l'islam est la solution, c'est que vous estimez que l'islam a réponse à tout. Problèmes socio-économiques, culturels, je dirais politiques, économiques, etc. C'est un slogan, beaucoup plus qu'un programme socio-économique prêt à l'emploi. Donc il y a un déficit, je l'ai dit à l'instant, un déficit de théorisation de l'économie. Il y a certains auteurs chiites notamment qui ont tenté une théorisation, mais quand on parle de banque islamique ou de finance islamique, qu'est-ce sinon un capitalisme déguisé? Et je vais vous raconter une anecdote. M'entretenant avec un économiste marocain, plusieurs économistes marocains, il me faisait le constat suivant. Parfois la finance dite islamique est encore plus capitaliste que le capitalisme des banques ordinaires.
Et elle coûte cher pour le particulier dont on veut le prémunir contre les méfaits des intérêts usuraires.
C'est ça. En se méprenant d'ailleurs sur le sens de l'intérêt.
Aussi, et sur la compréhension de ce que c'est que l'usure.
Tout à fait.
Où l'on asservissait la personne créditrice ou débitrice, en tout cas, par rapport à la personne qui lui avait prêté de l'argent.
Thank you.
sommes sur France Culture dans l'émission Questions d'Islam. Aujourd'hui, nous parlons du lien entre le néo-fondamentalisme frériste, en tout cas des frères musulmans, et de leurs héritiers, et la manière dont ils assument ou pas l'esprit capitaliste, avec le chercheur Hawass Seniger, chercheur au laboratoire Triangle à Lyon, tout en étant maître de conférence à Sciences Po Lyon et directeur adjoint de l'ISM, qui est l'Institut d'études de l'islam et des sociétés du monde musulman. Hawass Seniger, pour cette deuxième partie, si vous voulez bien, pourriez-vous nous dire comment cette manière d'assumer ou pas se manifeste au grand jour,
oui,
le rapport au capitalisme?
Oui, ça c'est une question également épineuse à laquelle j'ai dû me confronter. C'est comment, vraiment l'une des premières préoccupations, c'est de trouver des acteurs musulmans qui ont un avis sur l'économie en général et le capitalisme en particulier. Et je le rappelle d'ailleurs dans l'introduction, il y a trois difficultés se sont posées. Et j'en profite pour revenir là-dessus. La première difficulté, c'est de définir, on l'a dit, définir néo-frères musulmans, islamistes, etc. La deuxième difficulté, c'est de trouver une définition synthétique du capitalisme. On y est revenu. En gros, c'est deux choses. C'est la satisfaction des besoins et ensuite un désir d'accumulation et d'enrichissement. C'est le deuxième point. Et la troisième difficulté, c'est de trouver des acteurs dits islamistes. Donc ça suppose quelques critères objectifs, s'ils existent. Et des islamistes qui, en plus, ont un avis sur l'économie. Lors d'un échange avec quelqu'un qui avait appartenu, ou en tout cas transité par cette mouvance, il m'a dit « Écoute, je suis désolé, je ne peux pas vous donner de définition du capitalisme, je n'ai pas d'avis sur le capitalisme ». Et ça m'a permis de faire un lien avec Pierre Bourdieu qui disait que l'opinion publique n'existe pas. On l'a créé, cette opinion. Et il m'a fallu donc me reporter sur des déclarations ou des entretiens que j'avais eus avec certains acteurs qui avaient à un moment ou à un autre milité au sein des structures dites fréristes. Une typologie s'est dégagée, cette typologie du rapport à l'économie. D'abord, la plupart du temps...
Et à l'économie capitaliste.
À l'économie capitaliste, oui. La plupart du temps, j'ai pris, si je ne m'abuse, 9 cas d'études, pour être vraiment le plus précis possible, ou 6 cas plus exactement. Et dans ces cas, j'ai essayé de mettre à chaque fois une nuance. Qu'est-ce qui distingue l'un et l'autre? Je me suis rendu compte de la chose suivante, c'est que la plupart du temps, soit on avait affaire à des crypto-capitalistes, des capitalistes honteux de l'être, soit à des personnes qui, sans assumer bien sûr publiquement l'enrichissement comme étant un vecteur positif, dénonçaient le libéralisme ou le capitalisme dans ses aspects moraux négatifs. J'y viens. Par exemple, le fait que des femmes portent un foulard des grandes marques, mais ce foulard ne serait pas porté comme il se doit. Donc ceux qui critiquent le capitalisme parmi ces néo-frères musulmans sont ceux qui ne vont pas s'arrêter sur les effets délétères du capitalisme sur les individus, sur l'écologie, etc., mais vont s'intéresser davantage au fait qu'une femme ne porte pas bien son foulard. Donc capitalisme, oui. Capitalisme non, si ce capitalisme-là aliène la femme musulmane dans un rapport puritain à l'islam. Vous avez néanmoins, et c'est un cas que j'ai trouvé dans ce cas, de quelqu'un que j'appellerais un dissident ou un autonome, qui, Abdelaziz Chambi, pour ne pas le citer, qui ne se reconnaît plus du tout dans les structures fréristes, mais qui à un moment donné a été dans ces structures, qui me disait que, compte tenu de sa trajectoire, fils d'un nationaliste tunisien, anti-colonialiste, etc., qu'il a toujours lutté contre ce qu'il appelle les marchands de sommeil, puisque quand son papa tunisien est venu en France, ça a été très difficile. Il a milité au sein de lutte ouvrière, puis au fur et à mesure, il a été fasciné par la révolution iranienne de 79, mais qui a conservé l'anticapitalisme, c'est-à-dire qu'il a quitté les frères, mais est resté cet anticapitalisme, la dénonciation sans ménagement, des effets pervers du capitalisme. Donc il est, on pourrait dire, rigoriste au plan moral, en tout cas il est très attaché à la lettre de sa religion, tout en étant un pourfendeur du capitalisme. Mais je dois reconnaître que c'est un cas extrêmement rare, parce que soit vous n'avez pas d'avis sur le capitalisme dans le cas de ces néo-frères musulmans, soit ce sont des crypto-capitalistes, soit ce sont des individus qui dénoncent le versant, je dirais, moral en négatif du capitalisme par rapport au hijab ou aux normes religieuses.
Oui, et celui qui est plutôt un critique radical de l'économie moderne en général.
Oui, Yamin Makri.
C'est vous-même qui l'avez cité. Et sa position à lui, c'est faut-il s'enrichir au-delà de ce qui couvre les besoins vitaux ou pas? Quelle est sa position?
Alors lui, il est plus radical que quelqu'un qui a été son ami, Tariq Ramadan. Bon, ils se sont séparés après un certain nombre de péripéties, en effet. Mais cette remise en cause radicale du capitalisme le conduisent, sans qu'il s'en rende compte d'ailleurs, à remettre en cause l'économie de façon générale. Parce qu'on est tous plus ou moins capitalistes. Quand je donnais tout à l'heure, j'énonçais la première définition, la satisfaction des besoins, chacun d'entre nous est pris par le fait de vouloir satisfaire ses besoins élémentaires. Le capitalisme commençant véritablement au moment de au deuxième étage, quand on volait au-delà. Mais Yamin Makri est clairement un critique radical du capitalisme, mais il n'a aucune alternative à proposer. Il est bien incapable de dire qu'est-ce qui pourrait se substituer à l'économie capitaliste. Et ce qui retient essentiellement sa critique, c'est le libéralisme. Le libéralisme et les libertés individuelles. Puisque selon lui, le capitalisme est essentiellement pervers parce qu'il consacre des libertés individuelles, notamment le libéralisme politique, qui conduirait à des actes attentatoires à ce que devrait être la morale publique. Par exemple, l'homosexualité, le mariage pour tous, etc. Vous voyez que ce qui retient vraiment les critiques du capitalisme, c'est l'aspect moral, l'aspect éthique, mais du point de vue, je dirais, on pourrait dire, du comportement privé des individus.
Oui. Que diriez-vous à ceux qui disent d'un côté, si j'ai bien compris, que ils rendent la prédation commerciale, c'est moi qui utilise le terme, hein, parce que je traduis un de leurs slogans, Tijara Shatara, c'est-à-dire le commerce, même dans ses aspects les plus virulents, est une forme d'intelligence, mais en le sortant de sa gangue, disons permissive ou libertaire, ce n'est pas gênant dans leur esprit à eux, alors qu'ils se veulent conservateurs, d'avoir cette richesse sans fin?
Non, ce n'est pas gênant, puisque le minimum vital, selon eux, est préservé, c'est-à-dire le rigorisme moral. Et c'est là où ça interroge, justement, sur le rapport, c'est pour ça que je dis affirmé, cet anticapitalisme affirmé. Il n'y en a pas un, ou rarement, qui assumera cet anticapitalisme. Donc cet anticapitalisme est verbal, il est énoncé. Donc dès lors que ça respecte la loi morale, aucun souci, mais rares sont ceux qui vont aller regarder de plus près les effets terrible, terrifiant parfois d'un capitalisme sans frein, notamment auprès des populations ou des pays les plus pauvres de la planète, puisqu'il y a des effets concrets en termes d'empreinte écologique, de moins-disant social, etc. Mais ça, cela ne les intéresse pas. Ça ne mobilise d'ailleurs que très rarement l'attention du discours qu'ils peuvent tenir dans les mosquées, dans les lieux de culte ou dans l'espace public.
Ce qui explique pourquoi, et pendant des années, on a eu dans la doctrine wahhabite l'opulence la plus insolente à côté d'un comportement rigoriste marquant l'arriération et même la minoration de la femme.
Oui, et pour citer, on peut citer l'Arabie Saoudite. Bon, les choses sont en train de connaître une évolution, on verra ce que ça donnera. Mais en tout cas, pour ceux qui ont visité le pays, on sait que pendant le mois du Ramadan, on pourrait voir ça ailleurs, il y a énormément de gaspillage. Mais ça, c'est compensé par les repas qu'on donne aux plus pauvres, parce que ça existe aussi. Au même endroit, à Médine ou à La Mecque, on va voir du gaspillage à certaines tables, et l'aumône, la générosité auprès de ceux qui n'ont rien pendant le mois du Ramadan. Donc il y a cette contradiction, mais qui est presque assumée, puisque l'essentiel, et c'est là où on voit que le prescriptivisme ou le formalisme religieux l'emporte, c'est que dès lors qu'on préserve l'illusion de la forme, oui, l'illusion formaliste, l'illusion formelle, les apparences, la morale religieuse est sauve.
Et ceux qui préconisent, sont-ils sincères ou pas, à tort ou à raison, même si c'est pertinent ou pas, la notion de la troisième voie, ni économie dirigiste, étatique, communiste, ni libéralisme à outrance, nous avons notre vision d'une économie juste. Ce n'est que du discours incantatoire.
Il faudrait l'objectiver, mais on n'a pas d'éléments qui permettent... Je ne dis pas que dans ces contrées, il n'existe pas de personnes ou d'individus qui... Et je le dis dans l'ouvrage, bien sûr qu'il y a des individus qui se revendiquent de l'islam, du rigorisme, ou même du néo-frérisme ou du frérisme, qui agissent localement pour aider les plus pauvres, les maraudes, etc. Ça existe chez les musulmans en général et les musulmans néo-frères ou néo-fréristes en particulier. Mais ce sont des solutions individuelles, ponctuelles, conjoncturelles, ne sont pas structurelles. Il n'y a pas de solution structurelle ou alternative au capitalisme. D'ailleurs, quand je cite Boltanski, Chapello, les sociologues qui ont écrit sur le nouvel esprit capitaliste, la force, je dirais, objective ou impersonnelle du capitalisme, c'est d'être capable de retourner la critique, c'est-à-dire de séduire même ceux qui critiquent le capitalisme. J'en donne un exemple concret. Ce qu'on peut appeler le nouvel esprit capitaliste, c'est le bien-être. Faire des selfies sur Facebook, s'enregistrer en train de prier à côté d'eau turquoise, en Indonésie, en Malaisie ou ailleurs, en ne se rendant même pas compte que ces images vont parvenir à des foyers musulmans totalement paupérisés, désargentés. C'est-à-dire que vous avez, c'est ça qui est saisissant. C'est-à-dire que le nouvel esprit capitaliste, c'est aussi le bien-être, c'est pas que l'argent. Vous avez des imams qui vont, je tairai les noms par charité d'esprit, qui font des vidéos où ils se filment en train de faire l'appel à la prière ou des prières collectives au bord, j'allais dire au bord du Nil, pas au bord du Nil, mais pas au bord du Nil en Égypte, mais au bord de la plage, et qui ne mesurent même pas les effets délétères quant à la perception de ceux qui n'ont pas les moyens même de se déplacer à 100 km. Donc il y a une absence, c'est plus grave même que le fait de s'enrichir. J'ose le jugement normatif. C'est même plus grave, c'est qu'on s'abstrait totalement d'une réflexion conséquente sur la situation des plus pauvres, en général, et des pauvres musulmans en particulier.
Alors, comment expliquez-vous, et suite à votre étude, ce sentiment, cette ambivalence, comment est-elle vécue? A-t-elle quelques dégâts, si je puis dire, sur la psyché même de ces personnes, ou elle est, ça fait partie des contradictions de la doctrine néo-fondamentaliste?
Les acteurs sociaux, quels qu'ils soient, cela devrait, c'est pour ça que je parlais de banalisation, mais pas dans le sens où on ne devrait pas se préoccuper du fondamentalisme. La banalisation vient des contradictions des acteurs sociaux. Parce que les acteurs sociaux déclarent un certain nombre de choses, et ils peuvent faire autre chose. Dites ce que je dis, faites ce que je dis, pas ce que je fais. Le sociologue ne s'y intéresse dès lors que ses comportements privés deviennent publics. Sur la vie privée, nous n'avons rien à dire de particulier. Chacun a une vie privée. Simplement, les effets que ça provoque, cet affichage ou cette ostentation, notamment matérielle, c'est que ça provoque chez certains musulmans, pas tous, certains n'y font pas attention puisqu'ils sont comblés et ravis d'entendre un discours rigoriste, c'est de dire ce monsieur prône la vertu, le partage, mais lui-même s'enrichit allègrement et tire profit de son statut même de prédicateur, de prêcheur, etc. Ou d'imam vedette qui se rend en Indonésie, en Malaisie et ailleurs. Ça crée quand même un hiatus. Je ne dis pas que le religieux n'a pas le droit de bien vivre, qu'il n'a pas le droit de passer de bons moments. Le point de vue critique, c'est quand vous visibilisez votre bien-être via les réseaux sociaux, ce qui est différent. Vous pouvez être riche et discret. Là, vous êtes riche dans l'ostentation auprès de gens qui, eux, n'ont peut-être même pas de quoi manger un repas satisfaisant quotidiennement.
D'où la contradiction, moi j'ose le terme, d'hypocrisie, des propos tenus au niveau du conservatisme, de l'esprit conservateur, et alors qu'on fait étalage de richesses, je ne dirais pas indues, parce que je ne sais pas, mais en tout cas insolentes.
C'est là où on se rend compte, pour donner concrétude et chair à la formule des évangiles, si je ne m'abuse, la lettre tue, l'esprit vivifie.
Et ce qui serait... J'utilise le conditionnel propre, une des caractéristiques du fondamentalisme.
Oui, c'est-à-dire garder ce qui nous arrange et laisser ce qui nous dérange. Ce tri, hein, dans une espèce de sac. Finalement, la commercialisation, le rapport économiciste ou le rapport économique au marchand, au religieux, on le trouve beaucoup chez les néo-frères musulmans qui, verbalement, expressis verbis, dénoncent le capitalisme. Un exemple frappant, vous vous rendez à la Mecque, le nombre de commerces, de tours, d'hôtels, 5 étoiles, 4, 5 étoiles, est frappant. Où est l'esprit? Et c'est d'ailleurs l'un des acteurs que j'interroge, Reda Ben Kiren, qui répond à cette question, en comparant la Mecque à Las Vegas.
Oui. Pourrions-nous dire que finalement, dans cette tension-là, c'est l'esprit capitaliste qui a triomphé.
Oui, on peut le dire. Je pense que l'esprit capitaliste a très largement triomphé, je dirais structurellement, sur les groupes identifiés comme néo-frères-musulmans ou islamistes. Je dis groupe parce qu'il y aura toujours des individus qui, au sein de ces structures, seront peut-être des socialistes ou des crypto-socialistes.
D'accord. Reda Ben Kéran, que vous avez cité, l'homonyme de cet autre Premier ministre que vous avez évoqué, est d'une grande critique.
Sévérité. Oui.
Et d'une grande sévérité sur ce type de comportement et d'hypocrisie.
Oui, parce que je lui donne raison, je ne devrais pas sortir de cet habit, mais après tout, on est des citoyens aussi, pas que des chercheurs. On ne peut pas s'abstraire des conditions qui sont les nôtres. Cette hypocrisie...
On agit et on se voit agissant.
Bien sûr. Cette dichotomie, la note, c'est-à-dire qu'il compare la Mecque à Las Vegas, à un grand marché. Pour lui, un acte salvifique ou salvateur serait de boycotter la Mecque. On sait que c'est une obligation dans la plupart des traditions religieuses musulmanes. Lui serait favorable à ce qu'on boycotte justement pour mettre un frein à ce capitalisme débridé sauvage qui tue l'esprit de la religion. C'est un premier point. Le deuxième point qu'il est important de rappeler un peu dans la ligne de Ben Kiren, c'est que ceux-là même qui dénoncent l'Arabie Saoudite quand elle fait des campagnes militaires au Yémen sont ceux qui ont des agences de Hajj en France,
donc de pèlerinage,
qui assure le transit des voyageurs et le fait que des voyageurs ou des musulmans puissent aller à la Mecque, et qui ne diront rien sur l'Arabie Saoudite publiquement parce que ce seraient des marchés qui se fermeraient.
On est encore une fois dans l'hypocrisie, ou du moins on s'adapte selon les situations.
Oui, si on est sévère et dur, on pourrait dire de l'hypocrisie. D'autres diraient que c'est du réalisme ou s'adapter aux contraintes.
Culture dans l'émission Questions d'Islam avec le chercheur Hawass Seniger pour parler de la tension, du lien, de la relation entre l'esprit capitaliste d'un côté et une approche fondamentaliste, néo-frériste, en tout cas celle des néo-frères musulmans, et pour mettre en exergue les contradictions dans cette tension. Hawass Seniger est maître de conférence à Sciences Po Lyon, chercheur au laboratoire Triangle et directeur adjoint de l'ISME, l'ISME étant l'Institut d'études de l'islam et des sociétés du monde musulman. Pour cette dernière partie, Hawass Seniger, il faut peut-être à un moment donné se rendre compte, je parle d'eux, des néo-frères musulmans, qu'il vaut mieux peut-être cesser d'accuser le capitalisme de tous ces maux, enfin trouver une certaine cohérence.
Seuls eux pourraient répondre à cette question. Est-ce qu'ils souhaiteraient y répondre? Je ne sais pas. Ont-ils pensé à la question? J'en suis également moins sûr. Ce qu'on peut dire à partir d'éléments factuels, c'est que il n'y a pas de réflexion systématique, au sens de système de pensée alternative au capitalisme. Je dirais même, bon, il y a des palettes, il y a des nuances dans le capitalisme, hein, parce qu'on parle du capitalisme au singulier, on devrait sans doute en parler au pluriel, néolibéralisme, ultralibéralisme, etc. Je crois qu'aujourd'hui, la plupart du temps, ce qui explique sans doute leur silence par rapport aux effets pervers, aux effets délétères du capitalisme, c'est qu'ils sont arc-boutés sur les questions de normativité religieuse. Je crois que c'est ça aussi l'aveu. Au-delà du fait qu'il n'y ait pas d'alternative au capitalisme, c'est que c'est la plus belle illustration, c'est peut-être ça le révélateur d'une réflexion sur l'articulation entre nouvel esprit capitaliste et néo-frères musulmans, c'est que cela révèle encore plus leur fixation, leur obsession de la pureté formelle, j'insiste là-dessus, formelle religieuse. Je dis cela d'autant plus aisément que quand en dehors du slogan l'islam ou al-hal, l'islam et la solution, qu'ils ont d'ailleurs abandonné progressivement après 2011, confrontés à la réalité, à la dureté de la pratique gouvernementale en contexte majoritairement musulman, il y a cette obsession, et je dois dire, je le ferai avec un ton provoquant, je l'ai fait dans d'autres émissions à un autre moment, cette obsession de la visibilité de la forme, ils l'ont en partage avec leurs propres ennemis ou adversaires. C'est paradoxal. Il y a une espèce d'alliance objective inattendue entre ces acteurs de l'islam politique ou ces néo-frères musulmans et ceux qui leur font la guerre. Ils sont obsédés par la visibilité. Certains sont obsédés par la visibilité de la femme, notamment, c'est la variable d'ajustement, c'est terrible, et c'est le cas, du foulard dans l'espace public, pour l'imposer, pour l'encourager, et d'autres font la chasse au foulard en étant, comme les premiers, obsédés par la visibilité de l'islam dans l'espace public.
C'est l'avers et le revers quasiment d'une même effigie. Et d'ailleurs à ce sujet, à propos du burkini, je pensais ne pas encore en parler lors de cette émission de cet attribut, vous dites dans votre ouvrage qu'il fait partie de cette articulation entre l'obsession de la norme et l'esprit capitaliste.
Oui. On n'a pas pensé à cette critique quand cette affaire est apparue au grand jour en 2016. On s'est pas rendu compte d'un phénomène qui était pourtant tapis derrière cet accoutrement, le capitalisme ou les effets du capitalisme. Je m'explique là-dessus. D'abord, en faisant une analyse sérieuse, il n'y a aucun moufti sauf un religieux australien qui a légitimé le burkini qui est le produit du marché.
Et qui est venu d'Australie puisque c'est une australienne qui est
d'origine libanaise, exactement.
Derrière cet accoutrement.
Le marché a produit le vêtement, puis un imam est venu en quelque sorte lui apporter une onction. Mais dans l'écrasante majorité, et je le dis vraiment de manière tout à fait sereine, dans l'écrasante majorité des cas, la plupart des conservateurs religieux musulmans, je ne parle même pas des islamistes, et a fortiori les islamistes, condamnent le fait même qu'une femme puisse se rendre sur la plage. Fut-elle habillée
ainsi,
en burkini?
Parce qu'il ne faut pas qu'elle voie la nudité d'autrui, et elle-même n'a pas à s'exposer dans ce lieu dit, selon eux, de dépravation.
Exactement. Donc on ne peut pas dire que ce vêtement est islamiste. J'ajoute un deuxième point. On oublie les hommes. On oublie trop souvent les femmes. Mais on oublie les hommes dans cette affaire. C'est que les prêcheurs conservateurs et les théologiens qui s'inscrivent dans cet héritage néo-frères musulmans condamnent la présence de l'homme sur la plage s'il est vêtu d'un short et qu'il est torse nu. Et même s'il n'est pas torse nu, le fait de se retrouver avec d'autres qui seraient dénudés, c'est commettre un péché. Et c'est pourquoi je dis...
L'adultère par l'œil, comme ils
l'adultère
disent.
L'adultère par l'œil. Donc le burkini est le produit du marché. Je ne dis pas que certains ou certaines le portent par volonté de conciliation entre un impérium ou un impératif religieux et les joies de la plage, mais on ne peut censément pas dire, de façon objective et sérieuse, que c'est le produit de l'islamisme.
Hawass Seniger, diriez-vous que cette obsession de la norme pousse dans la c'est un néologisme de ma part, la halalisation des comportements ou des esprits dans certaines sociétés majoritairement musulmanes comme en Malaisie, pour concilier à la fois l'esprit capitaliste incontournable et le fait de sauver les apparences du respect de la norme religieuse.
Oui, je crois qu'il y a quelque chose d'intéressant dans votre question, c'est cette volonté, je pense que les opérateurs économiques l'ont compris aussi, musulmans ou non, c'est cette, et c'est lié à l'obsession, pour le coup, de la norme, c'est que le but, c'est de rassurer les musulmans dans le consumérisme, de les asseoir dans ce consumérisme, de les installer, de les satisfaire dans ce consumérisme. Dès lors que l'apparence est préservée, par exemple les bonbons halal, ou alors que c'est pas bon pour la santé, je dirais de manière spontanée, c'est de leur donner bonne conscience. C'est-à-dire, enrichissez-vous, adoptez un mode vestimentaire, respectez la norme religieuse et dépensez sans compter, y compris pour contracter des prêts qui coûtent plus cher qu'une banque traditionnelle quand on contracte un prêt dans une banque dite islamique. C'est vraiment cette idée, et c'est là où on peut pas dire que le marché seul produit la halalisation, pour reprendre votre expression, mais c'est l'idée que le musulman, étant obsédé par la norme, a besoin d'un discours qui puisse concilier les deux. Le satisfaire dans un certain consumérisme, qui fait la part belle au capitalisme, et la satisfaction d'avoir observé les devoirs de Dieu. Mais pour aller un peu plus loin, on a une extension des domaines d'islamité, c'est clair. Je veux dire, aujourd'hui en France, beaucoup, je ne sais, pourrais pas les quantifier, avant de consommer des confiseries, vont s'assurer qu'il n'y a pas de porc, de gélatine, etc.
Ce qui est un non-sens total par rapport même à l'esprit d'avant qui est de ne pas aller pinailler pour savoir de quoi la chose est faite.
Bien sûr qu'on peut se permettre dans cette émission de rappeler que dans l'héritage, dans le bagage théologique musulman, il existe l'idée que tout ce qui est transformé est permis et licite.
Oui, mais bien sûr.
On pourrait y revenir.
Et n'est-il licite que ce qui est clairement décrété comme illicite?
Tout à fait, qui ne subit pas de transformation. Donc tout ce qui est gélatine est une non-question, un non-sens.
Et pardonnez-moi, ce sujet-là, si on peut aller plus loin, ce qui est prohibé pour un musulman de stricte observance, c'est de ne pas manger d'une viande, d'un animal abattu à une autre divinité qu'à Dieu.
C'est ça.
Donc au départ, puis par la suite, vous voyez bien comme on a toujours plus radical que soi ou plus ultra que soi, on arrive à cette inflation de ce qui est totalement illicite.
C'est ça, et on est dans cette situation, je pense, française, on en avait parlé il y a quelques semaines. Finalement, on se regarde en chien de faïence. Les tenants de l'extension des domaines de laïcité, ceux qui mettent de la laïcité partout, y compris là où elle n'a pas à être, et l'extension des domaines d'islamité. Et il y a un jeu pervers entre les deux tensions, les deux tendances, qui nous enferme finalement dans un débat où on ne parle strictement que des mêmes sujets de façon récurrente. Vous voyez le nombre de fois où on a pu parler du foulard. Parce que ce qui inquiète, je pense, substantiellement, c'est la visibilité. On n'a pas réussi, encore quand je dis « on », l'ensemble des acteurs sociaux qui s'expriment dans l'espace public, à normaliser notre rapport à une certaine visibilité. Et cette normalisation nous permettrait de voir plus en détail et de manière plus subtile les différences qualitatives entre des comportements légitimés ou revendiqués au nom d'une appartenance religieuse.
Et penseriez-vous, Hawa Seniger, que le triomphe de l'esprit capitaliste aura comme effet de ramener à plus de nuances, et auquel cas petit à petit à se rendre compte de l'inanité de tenir mordicus à la norme religieuse, parce que sinon ça relève davantage à une forme de bricolage ou du rafistolage pour pouvoir tenir un moment.
De cette contradiction pourra naître peut-être une voie salutaire. Il y a une tendance qu'on ne voit pas bien. Dans le contexte majoritairement musulman, c'est l'inflation de l'athéisme. Je ne pourrais pas le quantifier, des collègues travaillent là-dessus, le fait que certains musulmans renoncent à l'islam en raison de ces contradictions qu'ils observent.
Ou peut-être un vent de sécularisation.
Mais, justement, j'y viens. Le deuxième aspect, c'est une éthicisation du rapport à l'islam. Moins d'apparence et plus de profondeur. Troisième élément possible, c'est finalement cette formule de Omar, du calife Omar, des premiers siècles de l'islam, qui, dans une formule brève, mais fondamentale et fondatrice, disait la chose suivante à ceux qui l'écoutaient. Soyez des prédicateurs ou des diseurs de la parole de Dieu en étant silencieux. Et les gens présents de lui répondre, lui rétorquer, comment pouvons-nous l'être en étant silencieux ? Et lui de répondre, par votre comportement ou par votre éthique.
Oui, alors merci, merci infiniment Hawa Seniger de nous avoir édifié globalement sur ce sujet, le lien, la tension, l'articulation, la contradiction même entre l'esprit capitaliste et le néo-fondamentalisme des héritiers des frères musulmans ou des frères musulmans eux-mêmes. Et surtout par la fin, peut-être de cette contradiction naîtra davantage une approche éthique, une intériorisation, une élévation spirituelle, davantage que le fait de tenir Mordicus à la norme religieuse dans une approche obsessionnelle. Chers amis auditeurs, c'était Question d'Islam. Merci de votre écoute assidue. Vous retrouverez les références de la musique et des livres sur le site de franceculture.fr. L'attaché de production est Daphné Abkral. La prise de son a été assurée aujourd'hui par Philippe Mercher et la réalisation a été assurée aujourd'hui par Marie-Laure Ciboulet.